Marcel Cohen, merci d'avoir accepté cette invitation de la librairie Mola, avec la participation de Gallimard, pour venir nous parler de quelques-uns de vos livres. Et avant tout, c'est à propos de l'un des derniers livres, paru dans la collection L'un et l'autre, Canima J.P. Pontalis, que nous souhaiterions vous entendre. Nous sommes en effet ici quelques-uns à avoir été bouleversés par la lecture de votre livre sur la scène intérieure. C'est ce qui nous a poussé à oser vous solliciter pour venir nous en parler. Vous avez écrit dans l'avertissement qui ouvre cet ouvrage, « Ce livre est donc fait de souvenirs et, beaucoup plus encore, de silence, de lacunes et d'oubli. L'espoir secret serait qu'un usage de ces faits s'impose néanmoins. » Nous espérons, Jenny Chaumienne Pontalis et moi-même, répondre ce soir à votre espoir secret par cette rencontre et, nous le souhaitons, par l'écho qu'elle pourra donner à votre livre. Je me permets de rappeler succinctement que vous avez publié votre premier roman, si je ne me trompe, en 1969, alors que vous apportiez au Seuil un recueil de poèmes, nous y reviendrons peut-être. Que vous êtes traduit en plusieurs langues, aux États-Unis, maintenant en allemand, en italien. En espagnol, vous avez écrit une lettre à Antonio Saura, en judéo-espagnol, la langue des premiers juifs migrants vers Istanbul que votre famille parlait encore. Aux éditions Gallimard, une trilogie fait et des écrits réédités cette année, Le Grand Pont de Nuit et Miroir. Et chez un petit éditeur, Fario, un livre essentiel, tout petit, publié la même année que Sur la scène intérieure, il s'intitule « À des années-lumière » et nous espérons que vous pourrez aussi nous en parler. Je n'ose donner quelques éléments biographiques, car vous avez pu dire « Je n'ai pas de biographie, pas d'identité. À quelques détails près, tous les enfants juifs qui ont survécu ont la même histoire que moi. Donc, cette histoire n'est pas la mienne, je n'ai qu'une absence d'identité. » C'était au fil d'une conversation avec votre ami Jean Frémont, publiée dans la revue Europe. Après une telle affirmation, il est difficile de vous présenter. Mais j'ai une question, peut-on vivre sans identité ?
Peut-on vivre sans identité ? Qu'est-ce que l'identité ? Nathalie Sarraute a répondu, elle disait, c'est une petite pellicule extrêmement fragile. Et elle disait, elle ajoutait, plus on descend profondément en soi-même et moins il y a d'identité. Elle donnait un exemple, même les différences les plus évidentes, les plus patentes, les plus réelles aussi, par exemple entre un homme et une femme, sont des différences tout à fait fragiles. Et elle disait, une femme alpiniste qui est en difficulté sur une paroi rocheuse, elle ne se... ça n'est plus une femme, c'est un être humain qui lutte pour sa vie. Elle ne redevient femme que le soir dans la vallée lorsqu'elle se maquille pour aller au restaurant. Bien. Donc, même les choses les plus évidentes sont fragiles. Alors, l'identité, est-ce qu'on peut vivre sans identité ? J'ai une identité, mais je voulais dire par là que... si je raconte ma vie, si je vous parle de ma vie, si je vous parle de choses qui me sont arrivées dans la vie, j'ai toujours un peu, au regard de la Shoah, l'impression de ne pas dire la vérité, de ne dire qu'une partie de la vérité, ou pour une raison simple, c'est que ça a représenté un tel écrasement dans ma vie que... mes premiers émois amoureux, par exemple, n'ont qu'une importance tout à fait relative. Et si j'écrivais sur un sujet de ce genre, je donnerais l'impression que la Shoah est quelque chose qui ressemble à une parenthèse que je pouvais refermer pour décider de parler d'autre chose. C'est en cela que ma... j'ai l'impression que ma biographie ne m'appartient pas. Et je pense qu'après la Shoah... que je sois devenu écrivain, plombier ou délinquant, ne change rien au fait que je suis d'abord un enfant de la Shoah. C'est ça que je voulais dire. Alors, évidemment, j'ai une biographie comme tout le monde, mais ce n'est pas le plus important.
Je laisse la parole à Jenny qui voulait aussi vous dire un petit mot d'introduction.
Oui. Est-ce que vous permettez, oui. avant, oui, vous êtes la fille aînée de J.B. Pantalis, alors je voudrais lui rendre un très bref hommage. Votre père est un homme qui a énormément compté dans ma vie. Alors, nous l'appelons J.B. parce qu'il avait horreur qu'on l'appelle par son prénom entier, qui était Jean Bertrand. Bon. Donc, J.B., tout le monde l'appelait J.B. Je voudrais lire une phrase de J.B. Tirée de La traversée des ombres, un livre de 2003. Je le lis. « La pratique de la psychanalyse et celle de l'écriture, qualifiée de littéraire, si différentes qu'elles soient l'une de l'autre par leurs procédés, leurs exigences et leurs finalités, je les crois, je les veux, proches. C'est que je vois à l'œuvre, en chacune d'elles, une parole en mouvement qui s'avance vers l'inconnu, une parole rêvante qui tente de se délivrer de tout ce à quoi astreint le discours organisé. » Voilà. Excusez-moi.
Non, au contraire. Bon, ben, merci d'être à Bordeaux parmi nous. Et je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance d'être venue jusqu'ici, d'abord, et encore plus d'avoir écrit sur la scène intérieure, écrit dont vous avez dit qu'il s'était imposé à vous. Je crois que votre formule exacte, c'est l'ignorance qui rend l'entreprise impérative. Cet écrit suscite une émotion très profonde. Vous rendez une présence actuelle aux disparus de votre enfance. Ce livre a été publié en 2013, chez Gallimard, dans la collection dirigée par J.B. Pantalis, mon père, qui avait pressenti sa puissance et sa sobriété. Je crois que c'est cette sobriété qui fait percevoir la violence subie. Votre livre, mis sous presse, je crois, à la fin de l'année 2012, n'a été publié qu'après sa mort, en janvier 2013, le 15 janvier, ce qui, bien sûr, a une valeur particulière pour vous, comme pour beaucoup, pour moi aussi, lorsqu'on évoque ce soir votre travail. Lorsque vous aviez 5 ans et demi, vos parents, votre petite sœur de 3 mois, vos grands-parents ont été déportés et sont morts dans les camps de concentration. En fait, seule une de vos tantes est revenue. Face à la souffrance mutique ou à l'amnésie nécessaire des quelques proches qui restaient encore en vie, face à l'abattage de masse, à la disparition du sens, vous avez cherché des faits. Vous avez écrit 3 livres faits, tome 1, tome 2, tome 3, et également des faits qui sont présents dans « À des années-lumière », dont parlait Bernard. Attentif et en attente, souvent dans vos voyages, vous avez parcouru le monde, surtout la mer, avec votre épouse, en naviguant sur des conteneurs, notant avec minutie tout ce que vous perceviez, collectant les données économiques actuelles, mais aussi celles des deux guerres mondiales, ouvrant aux questions politiques par cette rigueur même, mais jamais par une idéologie. Plus que découvrir ou redécouvrir des pensées ou du sens, il vous fallait, j'avais d'abord écrit retrouver, mais peut-être c'est trouver, dans un monde dépouillé, des signes, des traces, des chiffres, des faits, des détails que certains qualifieraient d'insignifiants, mais qui étaient signifiants. Dans les citations, vous citez beaucoup d'auteurs que vous aimez, qui me touchent aussi. Et là, j'ai pensé à la phrase de Walter Benjamin, le philosophe, je crois que vous le citez dans le tome 1 de Fait, « Je n'ai rien à dire, seulement à montrer. » Enfin, était-ce une façon de repeupler le monde ? Bon, ça sera ma question, vous y répondrez comme si vous voulez. Était-ce une première façon de repeupler le monde, de continuer à communiquer aussi bien avec autrui qu'avec vous-même ? En tout cas, par cette observation sobre et minutieuse, vous nous faites percevoir le risque mortel de l'anonymat, de l'équivalence humain-objet marchand qui nous menace. Mais si quelqu'un nous communique ses faits, vous, ce n'est déjà plus l'anonymat qui prévaut. Sur la scène intérieure, par son titre même, vous semblez rompre avec cette observation du monde externe, c'est ce dont on parlera, et vous tournez vers le monde intérieur, dit donc d'habitude subjectif. Et pourtant, en sous-titre, vous mettez le mot « fait » en dessous, sur la scène intérieure. Le mot « fait » est présent, comme on peut aussi remarquer que le titre n'est pas « dans la scène intérieure », mais « sur la scène intérieure ». Vous pourriez peut-être nous parler de ce rapport si personnel et si créatif entre ce que sont pour vous les faits et la scène intérieure. Il me semble que c'est un fil qui a marqué votre travail littéraire, en fait, depuis longtemps, même si là, Bernard et moi, nous traitions, on veut toujours organiser, trop organiser, votre livre sur la scène intérieure comme un aboutissement de tous ces faits. J'ai découvert plus tard que vous aviez écrit Le Grand Pan de Nuit il y a longtemps, et j'ai aussi découvert hier soir, ce Grand Pan de Nuit vient d'être édité chez Gallimard, et j'ai aussi découvert que, en fait, des extraits du Grand Pan de Nuit avaient été publiés dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse sous le titre Désastre intime en 1989. Donc j'ai découvert que vous connaissiez mon père depuis longtemps.
Oui.
Et le numéro de la Nouvelle Revue s'intitulait L'intime et l'étranger. Voilà. Je vous poserai des questions s'il y a lieu tout à l'heure.
Vous avez prononcé quelques mots que j'ai notés. J'ai noté le mot ignorance. J'ai noté le terme je n'ai rien à dire, qui est emprunté à Walter Benjamin. J'ai noté le terme d'anonymat et aussi le terme de fait. Commençons par, si vous voulez, l'ignorance. J'avais donc 5 ans et demi en 43, quand ma famille a été déportée. Ce que je retiens, ce sont les souvenirs d'un enfant. J'étais tiraillé entre le fait que s'approprier à mon âge les souvenirs d'un enfant, c'est pas très honnête intellectuellement, les réécrire, leur donner un sens, une interprétation, c'est pas très honnête, ça ne me plaisait pas. D'un autre côté, je n'avais pas d'autres souvenirs, je n'avais pas d'autres matières, donc comment faire? J'ai pris le parti de ne pas toucher à mes souvenirs d'enfant, de les restituer aussi platement que possible en italique, et par ailleurs d'utiliser le caractère romain pour tout ce que j'ai pu apprendre sur ma famille. Mais c'est peu de choses. Ma mère avait 28 ans. Elle avait donc sa vie devant elle. Et j'ai passé ma vie à rencontrer des gens qui ont connu mes parents. Et j'ai passé ma vie à être déçu par ce qu'ils me racontaient. C'est tout à fait normal, car ils me racontaient toujours la même chose. Les mêmes anecdotes, les mêmes traits de caractère, etc. Néanmoins, ce qu'on m'a raconté, ce sont des faits. Ce sont des faits, et je n'ai pas voulu écrire un récit à partir de cela. Je me souviens d'une conversation avec J.B. Pontalis sur les souvenirs de l'enfant qui sont, d'après J.B. Pontalis, qui sont déjà une écriture. Il expliquait que si on demande à un enfant de raconter ce qu'il vient de vivre, il le raconte une première fois d'une certaine façon, puis une seconde fois d'une façon un peu différente, et une troisième fois d'une façon encore un peu différente. Et puis après, les choses se tassent, et c'est toujours la même version qui revient. Et Pontalis expliquait que l'enfant est en train d'écrire son propre souvenir. Alors, il y a un texte de Janet, le psychologue qui s'est intéressé à l'enfant, sur ce sujet. Les enfants écrivent leurs souvenirs, donc si l'adulte s'empare de ce souvenir écrit par un enfant pour le réécrire, alors ça devient un pathos innommable, et on est vraiment très très loin des réalités. Bien. Mais l'enfant qui écrit son souvenir, il ne l'écrit pas pour travestir la réalité. Simplement, il cherche à être aussi convaincant que possible en choisissant les éléments qui lui semblent, à tort ou à raison, être nécessaires à son récit. Et il refuse le reste. Bien. Voilà, donc je ne pouvais pas faire de récit, je ne le voulais pas. J'ai noté la phrase « je n'ai rien à dire », mais ça m'a longtemps empêché d'écrire ce livre, car qu'est-ce que je pouvais dire dans ce livre ? Mes parents n'avaient rien de très extraordinaire. Ça paraît presque scandaleux de dire de personnes qui sont mortes dans des circonstances aussi atroces que ce n'étaient pas des gens extraordinaires. On a tendance à penser que tous les disparus sont extraordinaires. Mais il s'est passé quelque chose. Alors, c'est le petit coquetier que J.B. Pontalis a choisi de faire figurer sur la couverture. Il se trouve qu'en 1939, ma mère était invitée chez une amie de la famille. Et plutôt que d'apporter des bonbons ou des fleurs, elle a acheté un petit coquetier en bois peint à la main qu'elle a offert à cette personne. Et en 2009, 70 ans après donc, j'ai revu cette personne qui se porte très bien, malgré son grand âge, et qui était terrifiée à l'idée que ce coquetier puisse disparaître, car évidemment, il n'a aucune signification pour ses enfants, ni pour ses petits-enfants. Donc elle m'a offert ce coquetier et tout d'un coup j'ai été très ému, non pas seulement par le fait qu'on m'offre ce coquetier pour qu'il ne disparaisse pas, mais par le fait qu'une personne garde pendant 70 ans un objet aussi insignifiant, en somme. Tout d'un coup, ça voulait dire que ma mère était peut-être... comment dire, peut-être une femme telle qu'on me la décrivait, c'est-à-dire pleine d'entrain, pleine de vie, aimant rire, tout sauf, au fond, une femme très ordinaire. Bon, donc il y avait quelque chose qui se ressemblait, à travers ce petit coquetier, à une aura. Pour Benjamin, l'aura, c'est... quelque chose de très particulier, c'est l'image mentale que nous forgeons, par exemple, de quelqu'un qui marche derrière nous et que nous ne voyons pas. Alors, tout d'un coup, ce petit coquetier, à travers le petit coquetier, je voyais une femme qui, effectivement, avait une personnalité très marquée, je crois, Et alors, comment rendre compte de cette personnalité à travers des objets aussi ténus qu'un coquetier ? Il y a un objet qui m'a beaucoup ému aussi, et qui a beaucoup ému J.B. Pontalis. C'est un petit chien en toile cirée jaune, confectionné pendant la guerre par mon père, qui était bien incapable de m'offrir des jouets, car on ne trouvait pas de jouets chez les commerçants ou à des prix exorbitants. Mon père n'était pas du tout tailleur, enfin, il ne savait pas coudre, mais il s'est donné la peine de... peut-être avait-il un modèle ou a-t-il trouvé un modèle quelque part, de confectionner un petit... chien dans cette toile cirée, il l'a bourré de coton, il l'a cousu à la main, etc. Tout d'un coup, à travers le coquetier, je vois une femme qui commence à émerger de cette nébuleuse qu'est l'ignorance. Et puis je vois aussi un homme capable d'une affection quand même, je crois... peu commune. Voilà donc comment comment on peut n'avoir rien à dire et penser que c'est pas une raison suffisante pour ne pas écrire ou pour se taire. Il faut trouver un moyen. Et je pense qu'en ce sens, c'est un travail d'écriture. L'écrivain est la personne qui essaie par tous les moyens de faire parler des choses qui, théoriquement, n'ont rien à dire. Je vous avoue que ce n'est pas une préoccupation très originale ni très récente. Victor Hugo écrit un livre fait de, qui s'appelle « Choses vues » et qui est fait de petits faits comme ça observés. Si vous le permettez, je voudrais me référer à Victor Hugo pour bien faire comprendre où je me situe. Dans « Choses vues », Victor Hugo, qui habitait près de la place des Vosges à Paris, sort un jour de chez lui et il passe devant l'atelier d'un menuisier qui avait travaillé pour lui. Et la porte est entrouverte et il entend des coups de marteau. Alors, il s'approche et il dit bonjour au menuisier. Il lui dit « Ah bon, vous travaillez, je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire ?» Il dit « Je fais un cercueil pour l'empereur. » « Un cercueil pour l'empereur ?» Bon. C'est le retour des cendres. Un cercueil pour l'empereur, alors Victor Hugo s'approche. Je peux jeter un coup d'œil ? Mais oui, je vous en prie. Il jette un coup d'œil au fond du cercueil. Et il regarde et il voit dans l'ébène, sur la paroi gauche, il voit une veine blanchâtre. Et il est stupéfait et il se dit « Je suis sans doute... le dernier homme avant des millénaires a regardé au fond du cercueil de l'empereur. » Bien. Alors, on n'en est pas encore à des millénaires, mais tout de même, beaucoup d'eau a coulé sous la Seine. Et alors, je voulais dire simplement que pour moi, c'est ça un écrivain. C'est quelqu'un qui a la curiosité de regarder au fond du cercueil de l'empereur. Alors que pour tout le monde... un cercueil, ça va tellement de soi qu'on n'a pas besoin de le regarder. On sait tous ce que c'est qu'un cercueil. Donc, voilà, en gros, ce que pourrait être pour moi l'écriture. Enfin, une définition qui, me convient assez bien. L'écrivain n'est pas quelqu'un qui est là pour faire de belles phrases. C'est quelqu'un qui peut nous montrer du doigt... des choses que peut-être nous n'avons pas vues ou qu'il est seul. C'est pas qu'il est particulièrement brillant dans tel ou tel domaine, c'est simplement qu'il a une vision qui lui est propre. Et c'est parce que sa vision lui est propre que nous pouvons, grâce à lui, avancer un petit peu et perfectionner notre propre regard. Alors, j'ai beaucoup de tourner autour de ces mots, mais je ne sais pas si j'ai répondu.
Enfin, il me semble que quand même, c'est pas que c'est important de dire l'écrivain, mais c'est pour ne pas pour parler de vous, ne pas tomber dans l'anonymat des écrivains. Il me semble que ce que vous avez peut-être pu m'exprimer aussi tout à l'heure, mais qu'on sent très fort sur la scène intérieure, c'est qu'il y avait que vous. Qui pouviez, là, c'est vraiment par rapport à la Shoah et à l'anonymat de ces millions de morts, il n'y avait que vous qui pouviez entendre, je crois que vous avez une très belle formule, mais là, je ne l'ai pas sous les yeux, la peine de cette jeune mère, parce que donc votre mère, quand elle a été arrêtée, comme votre petite sœur n'avait que 3 mois, a été hospitalisée, internée, en fait, à l'hôpital Rothschild, juste parce qu'on ne pouvait emmener dans les camps que des nourrissons de 6 mois. Et là, quand vous assistez dans le livre, quand vous assistez à un discours commémoratif, qui était peut-être bien, c'est pas la question, qui reprend, vous, peut-être on le lira, ou les personnes qui sont ici le liront, je ne vais pas le lire en entier, mais vous ressentez un malaise. Vous parlez même d'un silence assourdissant tout d'un coup pour vous, parce que vous pensez que personne d'autre que vous enfin en tout cas qu'un écrivain et peut-être son fils ne pouvait parler de la douleur de cette jeune mère. voilà. Qui serait sinon, enfin, qui serait si, enfin, c'est la question de l'anonymat quand il y a un crime de masse. Il y a que vous qui pouviez quand même parler de l'odeur de sa poudre de riz dans son sac. Il y a que vous qui pouviez parler des pas de votre père dans le couloir. C'est pas que c'est
oui.
Ça a à voir avec chose vue, mais c'est aussi autre chose en même temps qui est lié à ce qui s'est passé.
Oui, alors, vous évoquiez l'hôpital, c'est l'hôpital Rothschild à oui. Paris. Il y avait un protocole entre l'Allemagne et la France, on ne déportait pas les nouveaux-nés de moins de 6 mois. Ma jeune sœur avait 3 mois. Donc, internée avec ma mère pendant 3 mois à l'hôpital Rothschild. Ma famille a tout essayé pour faire sortir ma mère de l'hôpital Rothschild, en vain. On est même allé jusqu'à recruter un truand à Pigalle. L'un de mes oncles est allé... un truand, il a rencontré dans un café un truand qui, moyennant une somme d'argent, se faisait fort de sortir avec ma mère à son bras à l'issue des visites. Au dernier moment, ma mère n'a pas eu le courage de s'habiller et de suivre cet homme, car elle avait peur des représailles. Donc, tout a été vain. Je suis allé plusieurs semaines voir ma mère dans la salle commune jusqu'au moment où ma famille a compris que c'était suicidaire et qu'il ne fallait plus m'emmener et il ne fallait plus entrer dans la salle commune. Donc nous nous contentions de venir voir ma mère depuis le trottoir d'en face et ma mère apparaissait derrière la fenêtre fermée. Elle nous faisait des gestes, nous lui faisions des gestes. Elle prononçait des mots qui n'étaient pas faits pour être entendus, bien entendu, mais elle ne pouvait pas s'empêcher. Et nous aussi, nous prononcions des phrases qu'elle ne pouvait pas entendre. Les décennies passent et en 1996, on a dévoilé une plaque en l'honneur des jeunes mères et des nouveau-nés internés à Rothschild. Je suis donc allé, alors avec beaucoup de réticence, parce que ce genre de cérémonie me laisse tout à fait perplexe, mais je suis allé, et sans m'en rendre compte, au lieu de me mettre dans la foule qui était massée autour des micros, je suis resté sur le trottoir d'en face, c'est sur le trottoir d'en face que je me tenais lorsque j'étais enfant. Et alors, là, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est que tout d'un coup, deux infirmières ont ouvert la fenêtre derrière laquelle ma mère se tenait pour écouter les discours qui seraient prononcés 2 étages plus bas. Et ma réaction a été une réaction de violence. Très brève, quelques fractions de seconde, mais vraiment, vraiment, qui m'a moi-même stupéfié, c'était que... Alors, 2 choses. D'une part, ces 2 infirmières n'avaient pas le droit d'être là. C'était un petit peu comme si on soulevait le couvercle d'un tombeau. Et d'autre part, j'ai été frappé par... l'extraordinaire silence qu'il y avait derrière les 2 infirmières, car je connaissais l'extraordinaire bruit infernal qu'il y avait. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 50 de jeunes mères et autant de nourrissons. Donc, on imagine très bien l'extraordinaire vacarme. Je me souvenais de ce vacarme. Et tout d'un coup, je vois cette fenêtre ouverte. Ce n'est pas ma mère qui apparaît, mais les deux infirmiers. Et il y a derrière les deux infirmiers un silence assourdissant. C'est ce silence que vous évoquiez. Si cette expression, un silence assourdissant, a un sens, je crois que c'est celui-là. Bien.
Peut-être que j'aurais envie d'intervenir à ce moment-là, parce que, justement, autour de cette scène, juste avant que vous l'évoquiez, et puis j'en lirai quelques lignes. Vous évoquez un vers de George Open. Je rapporte ce vers que vous nous donnez. « Vieillir, quelle étrange aventure pour un petit garçon. » Vieillir, quelle étrange aventure pour un petit garçon. À la première écoute, il y a quelque chose de paradoxal, on est mal à l'aise avec ça. Et je me suis dit, un vers que sûrement J.B. Pontalis n'aura pas manqué, car J.B. Pontalis a beaucoup écrit sur l'infantile. Et qu'au fond, ce vers est à entendre comme le petit garçon que vous étiez, dans cet après-coup, est ressaisi dans l'adulte. Il est là, il est présent, et c'est lui, ce petit garçon, qui est en train de vieillir à l'âge d'adulte. Et ça, notamment, on l'a, c'est ce moment brutal, justement, alors c'est ce que vous venez d'évoquer, je vais essayer de le lire. Ces jeunes infirmières sont derrière les fenêtres, comme vous venez de le dire. Elles n'avaient pas le droit d'être aussi jeunes, aussi désinvoltes, aussi innocentes. Une brève bouffée de violence m'envahit. Ce choc passé, je compris que la présence des infirmières éclaircissait un détail resté nébuleux dans mon souvenir. Plus que la largeur de la rue, c'est le bruit de la salle commune et la volonté de ne pas attirer l'attention sur elle qui s'imposait à Marie, votre mère, de ne pas parler que par gestes et en se contentant de remuer les lèvres derrière la fenêtre, faute de quoi il aurait fallu hurler. Il m'a semblé que ce moment-là, c'est le moment où le petit garçon est en train de vieillir d'un coup. Je finis ma question. Je me suis dit, mais au fond... avec l'écriture de la scène intérieure, est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça des moments très douloureux dans cette retraversée, comme si vous aviez forcé au bout de tant d'années le petit garçon à grandir et à prendre l'âge de l'adulte que vous étiez?
Nous n'avons pas parlé avec Pontalis de ce vers de Open, mais je me souviens d'une discussion où nous parlions du vieillissement et il disait... ce qui est douloureux, ce n'est pas vieillir, c'est le fait que, précisément, nous ne vieillissons pas. Nous restons des petits garçons et des petites filles. Mais, évidemment, nous ne les reconnaissons plus devant notre miroir. Mais le petit garçon, la petite fille sont toujours là, et je crois que c'est effectivement la douleur de vieillir, elle est là. C'est de ne plus reconnaître dans la glace le petit garçon que nous sommes restés. Mmh. Et c'est pourquoi le vers de Open est si, je trouve, résume tellement de choses en si peu de place. Ça, c'est vraiment un grand écrivain. Bon, quelle étrange vieillir, quelle étrange aventure pour un petit garçon. Bon, c'est le petit garçon qui vieillit. Mmh. Voilà. Mmh. Alors... Voilà, bon...
Non sans douleur.
Oui, oui.
Est-ce que l'écriture de sur la scène intérieure a fait vieillir ce petit garçon en bien des endroits de son passé, de ses images?
Comment? Pardon.
Est-ce que l'écriture de sur la scène intérieure a fait vieillir ce petit garçon par moments, douloureusement peut-être?
Non. Non, parce que, vous savez, une fois qu'un livre est écrit... la matière se volatilise. Enfin, c'est pas qu'elle se volatilise. Pour moi, ces souvenirs, ils restent gravés en moi, mais ça ne résout rien. Ça ne résout rien du tout. Ça résout une chose qui, pour moi, était fondamentale. On dit souvent, et de manière assez juste, qu'il y a un âge où... les parents deviennent les enfants de leurs enfants. C'est très juste. Alors, n'ayant pas vu vieillir mes parents, je n'ai pas pu les considérer comme mes enfants. Et je pense qu'à l'âge qui est le mien aujourd'hui, le moment était venu. Et la seule façon de m'occuper de mes parents, c'était de préserver ce que je pouvais préserver d'eux. Et c'est un geste de piété filiale élémentaire, mais pas seulement. Je crois que c'est une... Ça m'est vite apparu comme une réponse toute modeste au nazisme, qui était une, n'oublions pas, Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Et n'oublions pas que ce que le souhait des nazis, c'était pas seulement de tuer, c'était aussi de faire disparaître toute trace. Et il ne faut pas oublier que les nazis commençaient par détruire les cimetières, parce qu'ils pensaient, et à juste titre, qu'une minorité qui n'avait pas de souvenirs, qui n'avait plus de souvenirs, n'avait pas d'avenir. Un grand artiste allemand, je prononce très mal son nom, c'est Jochen Gers, a recensé 2600 et quelques cimetières juifs disparus en Allemagne. Il a fait avec ses étudiants, il est professeur, était professeur dans une école de beaux-arts, il a extrait les pavé d'une grande place, je crois que c'est à, je me souviens plus si c'est à Düsseldorf ou à Munich, mais enfin peu importe, la nuit, fait graver le nom d'un cimetière disparu sur le pavé et réinstaller le pavé à sa place initiale. Si bien qu'aujourd'hui, quand on foule les pavés de cette place, on foule quelque chose qui a disparu, comme les cimetières. Mais on ne peut pas ignorer que quelque chose a disparu. Et il y a simplement, c'est pour moi du grand art, arriver à ce point de modestie de la part d'un artiste plasticien, c'est que seule une petite plaque dans un coin de la place rappelle le travail qui a été fait par des dizaines d'étudiants. Voilà. Je voulais donc un petit peu, comme ça, redonner une consistance et donc une existence à des gens disparus et dont la volonté était de les faire disparaître à jamais. Car, n'oublions pas le fait suivant, Hannah Arendt a dit que 10 morts, c'est un massacre, mais 6 millions, c'est une pure abstraction. Et effectivement, les noms des 6 millions de Juifs ont beau être gravés dans le marbre, que ce soit à Paris, il y a 75 000 noms à Paris sur le mémorial de la Shoah, il y a 6 millions de noms à Yad Vashem, à Jérusalem. Mais ces noms, on ne peut même pas les lire. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ont sombré dans l'anonymat. Seuls les gens qui recherchent tel ou tel nom les trouvent. Pour toute autre personne, ça ne veut rien dire. Pour donner un ordre de grandeur, nous sommes, ma femme et moi, nous avons assisté à la lecture des noms de chaque convoi pour le 60e anniversaire, donc il y a 10 ans. Et puis, à quelques convois, quelques départs de convois pour le 70e anniversaire, il y avait à peu près 1000 personnes par convoi. Or, pour lire 1000 noms, il fallait 3 heures. Ce qui signifie que pour lire 6 millions de noms, il faudrait lire pendant 2 ans, 24 heures sur 24. Voilà l'abstraction, on la touche du doigt, là. Alors, il était impératif pour moi que la piété filiale ne soit pas un simple souci pieux comme ça, mais qu'il y ait des photos quelque part, et puis les rares objets que nous évoquions et qui sont parvenus jusqu'à moi. Sortir ma famille de cette nuit éternelle dans laquelle voulait les enfermer le projet nazi, c'était le souci de ce livre. Et à partir de ce moment, que j'ai quelque chose à dire ou que j'ai très peu à dire, ça n'avait plus grande importance. Voilà, je ne sais pas, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup tourné autour de votre réflexion. Je ne sais pas si tout ça est clair, mais...
C'est sûr que c'est par rapport à l'abstraction de ces millions que le fait que ce soit des objets, plus c'est vrai, mis en photo, qu'on regarde, enfin c'est important de les voir à la fin du livre, que ce soit des objets concrets. Vous dites que c'est ça qui donne une texture au souvenir. Et bon, c'est pas tout à fait la même question, mais c'est un lien. Mais là, vous l'avez bien expliqué. Vous pensez donc, je vous ai dit qu'autour de moi, on s'était questionné sur le fait de mettre le prénom de vos parents et pas mon père, ma mère. Et aussi, on revient là, en fait, vous mettez leur date de naissance, leur lieu de naissance, le numéro du convoi qui les a déportés. Et c'est d'abord ça. Enfin, et bon, et c'est pas simplement par rapport à la question de l'enfant qui vieillit, c'est aussi leur donner. Alors, je ne sais pas, c'est vous qui trouverez le mot. C'est parce que ce livre, moi, quand j'ai écrit que vous retrouvez vos parents disparus, vous faites apparaître des êtres humains.
Voilà.
Attachant, enfin, je ne sais pas comment le dire, aussi pour nous. Et c'est vrai que vous avez mis que les prénoms. Vous avez mis les prénoms de votre père, de votre mère, de vos grands-mères, de votre grand-père et de votre sœur.
Voilà, alors je voulais donc que ce livre soit presque au sens propre du terme un tombeau. Sur un tombeau, on trouve le nom, la date de naissance, la date de la disparition, la profession, éventuellement, je ne sais pas, des titres honorifiques, etc. Alors, il n'y a pas de titre honorifique dans ce qui concerne ma famille, mais au moins, il y a mes souvenirs personnels d'enfant et puis ce que j'ai pu apprendre adulte. Et ce que j'ai pu apprendre adulte, c'est sans fin. Je veux dire... ce livre, je peux. Alors, il est publié maintenant, mais il n'est pas refermé pour autant, dans la mesure où, jusqu'à la publication, j'ai appris quelque chose. Par exemple, j'avais, en tant qu'enfant, le souvenir que ma mère avait perdu ses cheveux. Et que. Elle avait. Les rares cheveux qui lui restaient étaient des cheveux blancs. Or. Cette image m'avait beaucoup frappé parce que je trouvais qu'elle était devenue laide. Et cette image que je conservais d'une femme laide était très dure à évoquer perpétuellement. Et je suis allé voir un dermatologue. Je lui ai payé une consultation. Et je lui ai demandé s'il était possible qu'une femme de 28 ans perde ses cheveux. Et il m'a dit que oui, c'était toujours dû à un choc émotionnel très violent. Et ça avait un nom, ça s'appelle une pelade. Alors, la pelade ne concerne que les cheveux qui ont conservé leur pigment. Or, à 28 ans, ma mère avait quelques cheveux blancs, mais ils étaient perdus dans la masse des cheveux châtains et... Enfant, je n'avais aucun souvenir d'avoir vu le moindre cheveu blanc chez ma mère. Et tout d'un coup, je vois les seuls cheveux que je lui vois, ce sont des cheveux blancs. Voilà. Alors, j'ai appris que ce souvenir, il était élucidé. Il suffisait d'aller voir un dermato. Ce dermato m'a raconté que Marie-Antoinette, elle aussi, avant d'être exécutée place de la Concorde, avait perdu ses cheveux en 48 heures, peut-être. Voilà.
J'aimerais, si vous voulez bien, revenir un petit peu sur cette construction particulière de sur la scène intérieure du point de vue de littéraire. Dans Fées, les trois tomes de Fées, il n'y a pas de récit construit au risque de l'effondrement du sens. Et vous citez Blanchot pour refermer le troisième tome. Blanchot. Je dus reconnaître que je n'étais pas capable de former un récit avec ces événements. J'avais perdu le sens de l'histoire. Cela arrive dans bien des maladies. Et vous ajoutiez à cette citation, dans L'homme qui avait peur des livres, vous la reprenez, « Je crois que pour un écrivain de ma génération, les raisons de cette maladie et l'effondrement du sens qu'elle engendre sont assez claires. » Est-ce que pour autant, on pourrait dire que sur la scène intérieure, tient pour une part dans sa forme, la forme de l'écrit de fait, c'est-à-dire pas de récit construit, et pourtant par ailleurs que le non-sens que vous y rapportez, paradoxalement, nous donne à saisir l'horreur dont l'homme est capable. Est-ce que sur la scène intérieure, vous auriez trouvé l'aboutissement de la forme narrative que vous cherchiez ?
Ce serait trop beau si c'était possible et si c'était vrai.
Je fais, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais allusion à la déconstruction du roman classique auquel vous vous référez, oui, dans L'homme qui avait peur des livres.
Oui.
Donc vous dites que c'est plus possible d'écrire comme au 19e et jusqu'au, oui, début du 20e.
Deux plasticiens pour qui j'ai énormément d'amitié et d'admiration, c'est Maya Anderson et Alexandre Delay. Et il se trouve que nous avons un ami commun qui est écrivain, c'est Emmanuel Occart. Et Emmanuel Occart dit souvent que sa grande ambition, c'est pas d'écrire un livre en plus, ce serait d'écrire un livre en moins. C'est-à-dire un livre qui retranche quelques-unes des possibilités de la littérature pour faire machine arrière. Alors, c'est un peu dans ce... C'est un peu ce que j'entends par cette maladie dont parle Blanchot et qui ne permet plus de construire un récit. Parce que il y a un grand critique qui s'appelle Jacques Rancière, dit ce qui différencie la réalité du récit, c'est que dans le récit, il y a un début, un apogée, une fin. Dans la réalité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Notre naissance ne peut être considérée comme un début, enfin, ce serait trop facile. Et notre disparition n'est pas programmée, en tout cas elle ne nous appartient pas, et nous ne serons pas là le jour où nous disparaîtrons. Enfin, nous ne serons pas nécessairement conscients que c'est une fin. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin dans la réalité, il y a un éternel présent. Et Benjamin disait d'ailleurs que c'est une formule qu'il empruntait à Saint-Augustin, il disait « il n'y a qu'un temps de la conjugaison, c'est le présent ». Alors, présent du passé, présent du présent, présent du futur. C'est le futur, c'est ce que nous sommes capables d'en dire maintenant. Le reste ne nous appartient pas. Tout ça fait que le récit est quelque chose qui est, pour un écrivain de ma génération, quelque chose de très lointain et de presque impossible à pratiquer encore. À plus forte raison, la fiction, parce que la fiction, c'est encore autre chose. Cela veut dire que l'on substitue le récit à la réalité. Et je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui nous cache les réalités au lieu de nous les donner à voir. Alors, il faut faire une grande différence entre le roman, les grands romans du 19e siècle dont nous sommes tous abreuvés et qui nous ont tous formés, qui font que nous sommes ce que nous sommes devenus. C'est grâce à Flaubert, c'est grâce à Stendhal, c'est grâce à Balzac, etc. Mais n'oublions pas que ces auteurs n'avaient alors disposition ni la psychanalyse, ni les sciences humaines, ni même l'histoire telle que nous la concevons aujourd'hui. Il nous donnait donc à lire les réalités. Aujourd'hui, écrire des fictions en écrivant des romans du XIXe siècle, ce serait masquer les réalités. De même que Glucksmann peut dire, par exemple, qu'écrire l'histoire, c'est toujours l'écrire d'une manière telle qu'elle pèse le moins possible sur les épaules. Bien. Nous voyons des fictions, je ne veux pas citer ni le nom d'auteur, ni le titre, mais nous voyons des fictions qui remplacent la réalité. Par exemple, considérer un SS comme un grave malade mental et le mettre en scène dans un très gros volume. Or, un jeune historien qui s'appelle Christian Ingrau a précisément montré le contraire. Les SS n'étaient pas du tout des brutes, c'était au contraire des gens extrêmement cultivés, généralement extrêmement intelligents, chez qui on trouvait une proportion de diplômés de l'enseignement supérieur très nettement supérieure à la moyenne allemande, et qui se considéraient comme une élite intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec les garçons bouchers qu'on pourrait imaginer. Or, voilà la réalité qui fait mal.
J'ai envie de faire écho avec une phrase de Bataille que j'ai retrouvée de 47. En 47, Bataille disait « Comme vous et moi, les responsables d'Auschwitz avaient des narines, des bouches, une voix, une raison humaine. Ils pouvaient s'unir, avoir des enfants. » Comme les pyramides ou l'acropole, Auschwitz est le fait et le signe de l'homme. L'homme, l'image de l'homme est inséparable désormais d'une chambre à gaz.
Voilà. Alors, je crois que quel que soit notre âge, et même des personnes très jeunes aujourd'hui doivent se convaincre que nous sommes tous des générations qui venons après Auschwitz. Car Auschwitz, ce n'est pas seulement un crime de masse, c'est un crime organisé avec de belles intelligences, avec des diplômés de l'enseignement supérieur, avec des médecins, avec des juristes, avec des avocats, avec la complicité de toute une population, quel que soit ça. Et dans le silence de l'Europe entière, dans la passivité de l'Europe entière. C'est ça la spécificité d'Auschwitz. Ça n'est pas du tout la cruauté, parce qu'il serait indécent de comparer la cruauté des nazis et la cruauté de X ou de Y. C'est pas de ça du tout que nous parlons. Mais quand nous disons qu'une civilisation s'effondre à Auschwitz, c'est ça que nous voulons dire. C'est que les policiers, au lieu d'arrêter les assassins, leur livraient des innocents. Les juristes, au lieu de faire respecter la loi, concevaient des lois qui tournaient les lois les plus élémentaires, et ainsi de suite. Les médecins, au lieu de soigner, torturaient. Il n'y a pas eu un Mengele dans les camps, il y a eu des dizaines de Mengele. Qu'un médecin rompe le serment d'Hippocrate qu'il a prêté, ça ne nous étonne pas. Mais que des dizaines, voire des centaines, je dis bien des centaines de médecins SS aient torturé au lieu de soigner, voilà quelque chose qui est la réalité. Et ça, ça n'apparaît pas dans les fictions. Bon, ça ne peut pas apparaître parce que c'est trop difficile. Et je voudrais montrer à quel point ce sont les réalités que nous cherchons à fuir dans les fictions éventuelles sur la Shoah. Lorsque les Américains, libérant les camps, ont filmé les déportés, ils ont exigé des Allemands qui prétendaient ne rien savoir des événements qu'ils voient les images tourner dans les camps. Eh bien, les Allemands tournaient ostensiblement la tête dès les premières images. Ils ne voyaient pas ce qu'on projetait. Bien. Mais si on leur avait présenté les SS comme des malades mentaux, ils auraient été absolument soulagés, ils auraient regardé, ils auraient même applaudi. Vous comprenez ? Donc, Voilà, la fiction aujourd'hui serait ce qui nous empêche de voir les réalités. Enfin, c'est ma conception de la littérature. C'est pourquoi ces livres, ça s'intitule d'une manière un peu provocante « Faits ». Et puis voilà, ce sont des faits. Et toute la rhétorique que nous pourrions évoquer à propos d'un récit classique a disparu, puisque dans mes livres, il n'y a pas de vrai début, il n'y a pas de véritable fin, il n'y a pas de milieu, à plus forte raison.
Je voulais juste poser une petite question pour introduire peut-être à des années-lumière. À des années-lumière, vous le publiez en 2013, en même temps que sur la scène intérieure. À des années-lumière, c'est d'une certaine manière dénoncer que Auschwitz est toujours d'actualité. Est-ce qu'on pourrait le concentrer, le résumer comme ça? C'est un texte, je vous fais part de ma lecture de ce texte. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, on avait eu il y a 2 ans à peu près un texte qui a eu un très bel écho, qui s'appelle « Indignez-vous », que nombre de gens ont lu. Quand j'ai lu « À des années-lumière », j'étais bouleversé parce que les propos ne sont pas attendus. Comme dans « Indignez-vous », forcément, on peut être que d'accord. Vous avez une manière de rapporter justement par simplement des faits la violence de la société dans laquelle on vit dans certaines circonstances. Ne serait-ce que, par exemple, que pour des raisons économiques, si un marin tombe à la mer maintenant, un porte-container ne part pas à sa recherche. Enfin, voilà. Et pourtant, vous appelez à une certaine espérance à travers ce livre, par la force de l'écriture.
Si la littérature peut quelque chose, et je pense qu'elle peut beaucoup, Sartre disait que c'est le lieu de la conscience, donc ça n'est pas rien. Alors, évitons les grands mots, mais si on regarde les faits vraiment avec un certain courage et sans se voiler les yeux, alors peut-être qu'on peut changer quelque chose. Je voudrais, alors vous citiez Auschwitz qui ne serait pas terminé, mais vous savez que Primo Levi disait à la fin de sa vie qu'il était persuadé qu'Auschwitz n'avait jamais cessé, sous d'autres formes, bien évidemment. Et je voudrais donner un exemple. Nous voyageons beaucoup sur des porte-conteneurs, ma femme et moi, parce que les porte-conteneurs qui transportent les ordinateurs que nous utilisons, les ordinateurs fabriqués en Chine, traversent des zones de non-droit où tout est possible. Et effectivement, tout est possible. Et le fait, notamment, de ne pas prêter assistance à quelqu'un qui tombe à la mer. Alors, pour que ce soit clair, nous avons fait un calcul avec un officier de la marine marchande. Porte-conteneur transportant le dernier Macintosh, par exemple, depuis Shanghai, et qui se dirige vers Rotterdam, transporte à peu près pour l'équivalent $1 milliard de marchandises. $1 milliard, c'est une marchandise qui est assurée. Alors, je vous laisse voir ce que ça représente. Le bateau est assuré. Bien. Il est donc exclu qu'il navigue un jour, 2 jours ou même 1 heure de plus. Si un marin tombe à la mer, personne ne peut aller le chercher. Parce qu'une journée de plus passé en mer, cela représente $200 000 au minimum. Et c'est un chiffre que nous avons calculé il y a quelques années. Il est vraisemblablement à revoir très nettement à la hausse aujourd'hui. $200 000 pour sauver la vie d'un marin cambodgien ou philippin, par exemple, qui gagne $100 par mois. Je dis bien $100 par mois. Les marins les mieux payés, hors des marins français, il n'y a plus de marins français, gagnent $500. Un marin indien ou pakistanais gagne $500 par mois. Mais un marin philippin gagne $100. Alors, imaginez la carrière d'un commandant de porte-conteneur qui fait dépenser $200 000 à son armateur pour sauver la vie d'un marin philippin qui gagne 100 dollars par mois. Sa carrière est terminée, hein, ce n'est même pas la peine de se poser la question. Donc voilà où nous en sommes. Et non seulement les portes-containers ne se déroutent plus, mais on sait que maintenant que certaines nationalités n'hésitent plus à jeter par-dessus bord les passagers clandestins. Bon. La chaîne Arte a même consacré une soirée à cela. Bon. Voilà où nous en sommes. Alors, les fictions, vous comprenez, il ne s'agit plus de fiction, là. Il s'agit de regarder ça très, avec un regard aussi aiguisé que possible et aussi mal que cela puisse faire. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Merci. Merci bien. Merci bien.